Ainsi, tout mouvement hérite des enfants d'autrui ?
Certes, parce qu'y affluent en grande partie les simples, qui n'ont pas de finesse doctrinale. Et pourtant, les mouvements de réforme des mœurs naissent en des lieux différents, de façon différente, et prennent leurs racines dans différentes doctrines. Par exemple, on confond souvent les cathares et les vaudois. Mais entre eux, c'est le jour et la nuit. Les vaudois prêchaient une réforme des mœurs à l'intérieur de l'Église. Les cathares prêchaient une Église différente, une vision de Dieu et de la morale différente. Les cathares pensaient que le monde était divisé entre les forces opposées du bien et du mal, et ils avaient constitué une Église où l'on distinguait les parfaits de simples croyants, et ils avaient leurs sacrements et leurs rites. Ils avaient établi une hiérarchie très rigide, presque dans la même mesure que notre Sainte Mère l'Église, et ils ne songeaient nullement à détruire toute forme de pouvoir. Ce qui t'explique pourquoi des hommes de commandement, des gros propriétaires, des feudataires adhérèrent aux cathares. Ils ne songeaient pas non plus à réformer le monde, parce que l'opposition entre bien et mal, pour eux, ne pourra jamais se réduire. Les vaudois, au contraire, et avec eux les disciples d'Arnaud ou les pauvres de Lombardie, voulaient bâtir un monde différent sur un idéal de pauvreté. Ils accueillaient ainsi les déshérités et vivaient en communauté du travail de leurs mains. Les cathares refusaient les sacrements de l'Église, pas les vaudois, qui refusaient seulement la confession auriculaire. Mais alors pourquoi les confond-on et en parle-t-on comme de la même malplante ? Je te l'ai dit. Ce qui les fait vivre, c'est aussi ce qui les fait mourir. Ils s'enrichissent de simples qui ont été stimulés par d'autres mouvements et qui croient qu'il s'agit toujours du même mouvement de révolte et d'espérance. Et ils sont détruits par les inquisiteurs qui attribuent aux uns les fautes des autres. Et si les sectateurs d'un mouvement ont commis un crime, ce crime sera attribué à chacun des sectateurs de chacun des mouvements. Les inquisiteurs ont tort selon la raison, parce qu'ils assemblent dans le même fagot des doctrines contrastantes. Ils ont raison selon le tort des autres, car dès l'instant où naît un mouvement, des disciples d'Arnaud, par exemple, dans une ville, y convergent aussi ceux qui auraient été ou avaient été cathares ou vaudois ailleurs. Les apôtres de Fra Dolcino prêchaient la destruction physique des clercs et des seigneurs et commirent quantité de violence. Les vaudois sont contraires à la violence, et les fraticelles aussi. Mais je suis certain qu'au temps de Fra Dolcino, convergèrent dans son groupe beaucoup de ceux qui avaient déjà suivi la prédication des fraticelles ou des vaudois. Les simples ne peuvent pas choisir leur hérésie, Atso. Ils s'agrippent à qui prêche dans leur contrée, à qui passe par le village ou traverse la place. C'est sur cela que table leur ennemi. Présenter aux yeux du peuple une seule hérésie qui ira même jusqu'à conseiller tout à la fois et le refus du plaisir sexuel et la communion des corps, c'est de bonnes règles pour un prédicateur, parce qu'on montre les hérétiques comme un unique embrouillamini de diaboliques contradictions qui offensent le sens commun. Il n'y a donc pas de rapport entre eux ? Et ce n'est que par ruse du démon qu'un simple qui eût voulu être joachimite ou spirituel tombe entre des mains de cathares ou vice-versa ? Et non, il n'en va pas ainsi. Essayons de recommencer du début, Atso. Et je t'assure que je tente de t'expliquer quelque chose dont moi non plus je ne crois pas posséder la vérité. Je pense que l'erreur est de croire que d'abord vient l'hérésie, et ensuite les simples qui s'y donnent et s'y damnent. En vérité, vient d'abord la condition des simples, et ensuite l'hérésie. Et comment cela ? Tu as une vision claire de la construction du peuple de Dieu, un grand troupeau, des brebis bonnes et des brebis méchantes, surveillées par des matins, des guerriers, autrement dit, le pouvoir temporel, l'empereur et les seigneurs, sous la houlette des pasteurs, les clercs, les interprètes de la parole divine. L'image est limpide. Mais elle n'est pas vraie. Les pasteurs luttent avec les chiens, car chacun des deux parties veut les droits de l'autre. C'est vrai. Et c'est cela précisément qui rend la nature du troupeau imprécise. Perdus comme ils le sont à se déchirer tour à tour, chiens et pasteurs n'ont plus cure du troupeau, dont une part reste exclue. Comment exclue ? En marge. Les paysans ne sont pas des paysans parce qu'ils n'ont pas de terre ou parce que celle qu'ils ont ne les nourrit pas. Les citadins ne sont pas des citadins parce qu'ils n'appartiennent ni à un art ni à une autre corporation. Ils sont le menu peuple, la proie de tous. Tu as vu parfois dans les campagnes des groupes de lépreux ?
Oui. Une fois j'en vis 100 ensemble, difformes, la chair en décomposition et toute blanchâtre, sur leurs béquilles, les paupières enflées, les yeux sanguinolents. Ils ne parlaient ni ne criaient, ils couinaient comme des rats. Ils sont pour le peuple chrétien les autres, ceux qui se trouvent en marge du troupeau. Le troupeau les hait, eux haïssent le troupeau. Ils nous voudraient tous morts, tous lépreux comme eux. Oui, je me rappelle une histoire du roi Marc qui devait condamner Iseute, la belle, et la faisait monter sur le bûcher, quand arrivèrent les lépreux, qui dirent au roi que le bûcher était une peine bien légère et qu'il en existait une bien plus lourde. Et ils lui crièrent « Donne-nous, Iseute, qu'elle nous appartienne à tous, le mal allume nos désirs, donne-la à tes lépreux, vois, nos hardes collent à nos plaies qui suintent, elle qui auprès de toi prenait plaisir aux riches étoffes doublées de verre et de bijoux, quand elle verra la cour des lépreux, quand elle devra entrer dans nos masures et se coucher avec nous, alors elle reconnaîtra vraiment son péché et regrettera ce beau feu de ronces. Je vois que pour être un novice de Saint-Benoît, tu n'en as pas moins de curieuses lectures, railla Guillaume. Et moi je rougis, car je savais qu'un novice ne devrait pas lire des romans d'amour, mais entre nous, jeunes gars, ils circulaient au monastère de Melk, et nous les lisions la nuit à la lumière d'une chandelle. Peu importe, reprit Guillaume. Tu as compris ce que je voulais te dire ? Les lépreux exclus voulaient entraîner tout le monde dans leur ruine. Et ils deviendront d'autant plus méchants que tu les excluras davantage. Et plus tu te les représentes comme une cour de lémures qui veulent ta ruine, plus ils seront exclus. Saint François le comprit parfaitement, et son choix premier fut d'aller vivre parmi les lépreux. Point ne change le peuple de Dieu si on ne réintègre dans son corps les émarginés. Mais vous parliez d'autres exclus. Ce ne sont pas les lépreux qui composent les mouvements hérétiques. Le troupeau est comme une série de cercles concentriques, depuis les plus larges distances du troupeau jusqu'à sa périphérie immédiate. Les lépreux sont le signe de l'exclusion en général. Saint François l'avait compris. Il ne voulait pas seulement aider les lépreux, car son action se serait réduite à un bien pauvre et bien impuissant acte de charité. Il voulait signifier autre chose. T'a-t-on raconté son prêche aux oiseaux ? Oui, j'ai entendu cette très belle histoire, et j'ai admiré le saint qui jouissait de la compagnie de ces tendres créatures de Dieu, dis-je avec une grande ferveur. Eh bien, on t'a raconté une histoire fausse. Autrement dit, l'histoire que l'ordre est en train de reconstruire aujourd'hui. Quand François parla au peuple de la ville et à ses magistrats, et qu'il vit que ceux-ci ne le comprenaient pas, il sortit vers le cimetière, et se mit à prêcher aux corbeaux et aux pies, aux éperviers, à des oiseaux de proie qui se nourrissaient de cadavres. « Quelle horreur, dis-je ! Il ne s'agissait donc pas de doux passereaux ?»« C'étaient des oiseaux de proie, des oiseaux exclus, comme les lépreux. » François pensait sûrement à ce verset de l'Apocalypse qui dit « Je vis un ange, debout sur le soleil, crier d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent à travers le ciel. Venez, ralliez le grand festin de Dieu. » Vous y avalerez chair de roi et chair de grand capitaine et chair de héros et chair de chevaux avec leurs cavaliers et chair de toutes gens, libres et esclaves, petits et grands. François voulait-il donc inciter les exclus à la révolte ? Non, ce fut plutôt l'œuvre de Dolcino et des siens. François voulait rappeler les exclus prêts à la révolte pour faire partie du peuple de Dieu. Pour recomposer le troupeau, il fallait retrouver les exclus. François n'a pas réussi, et je te le dis avec amertume. Pour réintégrer les exclus, il devait agir à l'intérieur de l'Église. Pour agir à l'intérieur de l'Église, il devait obtenir la reconnaissance de sa règle, dont il sortirait un ordre, et un ordre, comme il arriva, aurait recomposé l'image d'un cercle au bord duquel se trouvent les exclus. Et alors, tu comprends maintenant pourquoi il y a les bandes de fraticelles et des joachimites qui rassemblent aujourd'hui autour de les exclus, une fois de plus. Mais nous n'étions pas en train de parler de François, plutôt de l'hérésie comme produit des simples et des exclus. En effet, nous parlions des exclus du troupeau des brebis. Des siècles durant, tandis que le pape et l'empereur se déchiraient dans leur diatribe de puissants, ils ont continué à vivre en marge, eux, les vrais lépreux, dont les lépreux ne sont que la figure placée là par Dieu, pour que nous comprenions cette admirable parabole. Et disant « lépreux », nous comprenions « exclus », pauvres, simples, déshérités des racines et des campagnes, humiliés des villes. Nous n'avons pas compris. Le mystère de la lèpre est demeuré pour nous une obsession, parce que nous n'en avons pas reconnu la nature de signe.
exclus qu'ils étaient du troupeau, ces derniers ont été prêts à écouter ou à produire toute prédication qui, se référant à la parole de Christ, mettrait de fait sous accusation le comportement des chiens et des pasteurs, et promettrait qu'un jour ils seraient punis. Cela, les puissants l'ont toujours compris. La réintégration des exclus imposait la réduction de leurs privilèges. Raison pourquoi les exclus qui prenaient conscience de leur exclusion se voyaient taxés d'hérétiques, indépendamment de leur doctrine. Et eux, de leur côté, aveuglés par leur exclusion, n'étaient au vrai intéressés par aucune doctrine.